Music du Monde, Laurence Alloa. Music du Monde, sur RFI.
Les musiques du monde vont siffloter un accord parfait avec le journaliste Stéphane Deschamps qui publie une histoire parallèle du blues, Bongo Joe, Son House ou le révérend Uta Smith au parloir. Et on démarre avec de la musique pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Et Saul Williams, c'est le nouveau BCUC. Mr. Slam a rejoint la troupe sud-africaine montée sur ressort pour le nouvel album The Healing. Bienvenue sur RFI, on enlève les chaussures et on ambiance nos nouveaux amis, les voisins du dessous. Bonsoir. C'était BCUC qui vous donne rendez-vous à Paris le 28 mai pour un concert pour présenter le nouvel album des Healing, la guérison. Alors, est-ce que Femi Kuti ou Saul Williams qui ont participé à l'album seront là? Passons une tête, ça, non lo so. Jeunes gens, oui, j'aime bien vous appeler jeunes gens. Nous rentrons dans une zone, non pas de turbulence, mais de blues, avec Sarah McCoy, Bongo Joe, Son House, le révérend Uta Smith et Muddy Gurdy. Alors, Muddy Gurdy, ce sont des Auvergnats, des Français qui sont fous de blues et qui ont baladé leur vie à la roue. Imaginez, une vie à la roue, c'est un très très vieil instrument. Dans le détroit du Mississippi, ils ont adoré. La visite est guidée par Stéphane Deschamps, auteur du livre Blues Power. Et ça, c'est un live RFI.
Believe.
Deschamps, vous êtes l'invité des Musiques du Monde pour présenter votre livre Blues Power, une histoire parallèle du blues. Est-ce que vous avez reconnu les gens qu'on vient d'écouter?
Oui, je les ai reconnus, Maudie Gurdy.
Les Auvergnats qui ont un faible pour le delta du Mississippi, qui avec la vielle à roue ont fait des rencontres tout à fait étonnantes. Donc la vielle à roue est devenue un instrument qui colle parfaitement avec le blues.
Ben oui, au départ, ils sont donc d'Auvergne et la vielle à roue, c'est évidemment un instrument du folk français, notamment du folk auvergnat. Mais eux, ils sont allés enregistrer leur album l'année dernière, si je me souviens bien, ou même il y a 2 ans, dans le nord du Mississippi, avec des musiciens locaux. Voilà, ils ont fait des enregistrements un peu, comme on dit, des enregistrements de terrain, en enregistrant, pas dans un studio, mais un peu de manière naturelle, en rencontrant les gens, et avec cette vielle à roue qui crée un son de transe et qui, effectivement, va très bien avec le blues du nord du Mississippi.
Stéphane Deschamps, vous avez été journaliste musical pendant 25 ans aux Inrecuptibles. Cette passion du blues n'est pas née avec le journal, elle prend ses racines un petit peu plus tôt. Vous me racontez votre première étincelle avec ce style ?
Oui, ma première étincelle... C'est vraiment quand j'avais 12-13 ans, je pense. Et puis, c'est John Lee Hooker. Je pense que même avant ça, j'ai dû entendre du pseudo-blues. C'était Johnny avec toute la musique que j'aime. J'ai dû entendre ça à la radio quand j'étais petit. Puis, j'aimais bien ce son de guitare au début de la chanson. Et puis, après, je me suis rendu compte que c'était pas du blues, c'était pas une mélodie de blues. Mais ça m'a un petit peu ouvert quand même. Et puis, après, j'ai écouté beaucoup de rock'n'roll des années 50, en fait. Et évidemment, le blues est pas loin, quoi. Quand on écoute Chuck Berry et tout ça, les racines, c'est le blues. Et moi, j'ai creusé, en fait. Je suis allé chercher ce qui s'était passé avant le rock'n'roll, c'est-à-dire le blues de Chicago et puis le blues rural du Sud.
Sauf erreur, c'est votre premier livre ?
Oui, c'est mon premier livre, j'ai pris mon temps. Moi, avant, j'écrivais surtout des articles, plus ou moins longs, mais en gros, sur un article, on va passer maximum 3 jours. Et là, c'est plusieurs mois, quoi. Donc j'avais l'impression de gravir une chaîne de montagnes. Et quand on a gravi une montagne, hop, il y en a encore une plus haute derrière. J'ai avancé petit à petit, chapitre par chapitre, en m'immergeant, en me sortant un petit peu la tête quand même de temps en temps, parce que j'ai fait ça l'été dernier, et j'avais aussi besoin de prendre des vacances. Mais oui, c'est un gros challenge quand même d'écrire un livre quand on ne l'a jamais fait.
Votre premier voyage aux États-Unis remonte à quand ?
1997, et c'était pour rencontrer ce monsieur qui est en couverture de mon livre, John Lee Hooker. Et d'ailleurs, la photo est issue de la session en 97, quand je l'ai rencontré.
Premier voyage aux États-Unis, vous avez rendez-vous avec John Lee Hooker.
Je me suis dit que je commençais à faire un beau métier et que j'allais continuer.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down.
Qu'est-ce qui vous a étonné dans cet entretien avec John Lee Hooker ?
Ma chance, parce qu'en fait l'entretien lui-même, John Lee Hooker, il était vieux, il bégayait beaucoup, il s'est presque endormi dans le canapé à côté de moi, mais après d'être assis à côté de John Lee Hooker, dont j'écoutais les disques 15 ans plus tôt en fantasmant sur le blues et en adorant cette musique, c'est quelque chose, c'était vraiment rencontrer un de mes héros. Et puis j'ai touché sa guitare, j'ai touché ses mains, j'ai vu où il vivait. Quelque part, il est descendu de son piédestal. Et en même temps, ça l'a rendu plus humain. Je me suis rendu compte que les stars, c'était aussi des humains. Et peut-être particulièrement John Lee Hooker, qui était très simple, quoi, qui n'est pas devenu une rock star, ni même une blues star, même si c'en était une en termes de vente de disques.
Stéphane Deschamps, je vous propose d'écouter un des titres que vous avez choisi pour illustrer cet entretien et cette émission. C'est le révérend Uta Smith avec le titre « Two Wings ».
Two wings,
two wings.
Oh, heaven's gonna be my home.
C'était le révérend Uta Smith avec le titre Two Wings, deux ailes. C'est le genre de personne qui vous donne envie d'aller à l'église. Alors ce révérend est un peu particulier parce que lui, la guitare électrique, il l'a connue assez tôt et ça lui créait des sensations absolument folles,
oui,
Stéphane
oui,
Deschamps.
Oui. Oui, c'est assez fou cette façon de... Ce son de guitare qu'il a, et ce morceau, il date de 1944 quoi, quand même. Et on dirait presque un guitariste de free jazz ou un guitariste de rock complètement fou. On dirait l'ancêtre de Zappa, je sais pas. Il y a une liberté dans ce son de guitare. Voilà, donc un phénomène, le révérend Uta Smith.
On est entre l'homme d'église et l'homme du diable.
Ouais, mais je pense dans les églises américaines à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, il y avait une grande liberté, en fait, puisque c'était une musique qui n'était pas formatée pour la vente, pour passer à la radio. C'est une musique qui se jouait uniquement à l'église. Donc il y avait une très grande liberté d'interprétation en fait, et beaucoup plus sans doute de sauvagerie que dans des morceaux enregistrés en studio pour vendre des disques quoi.
J'ai oublié de dire que le morceau qui a démarré cette émission, donc des Hypnotic Wheels, Muddy Gurdy, c'était le titre Going Down South, et c'est un morceau qui a été composé par Robert Lee Burnside, donc R.L. Burnside, que vous avez vu sur scène.
Je l'ai vu sur scène et je l'ai vu chez lui aussi dans le Mississippi. R.L. Burnside, c'est un des très très grands du blues. Il est mort en 2005, voilà.
Je crois.
Et moi, je l'avais vu en 2003. Il avait eu une attaque cardiaque. Il pouvait plus jouer de guitare. Il était retraité. Voilà, il portait une casquette où il y avait écrit "Je suis à la retraite. Fichez-moi la paix." Et il vivait toujours dans son trailer dans le nord du Mississippi, dans une espèce de petite maison entre la maison et la caravane, avec un bazar partout. Voilà, c'est un petit peu tous ces musiciens de blues qui sont restés très authentiques. C'est un petit peu les gitans de l'Amérique, quoi. Il y avait des carcasses de voitures partout, il y avait du bazar, il y avait des enfants partout. Mais ça fait vraiment partie de leur charme. Encore une fois, moi j'aime beaucoup ce côté qu'il y a chez certains musiciens de blues. Et pareil, rencontrer R.L. Burnside, c'était un peu comme rencontrer Johnny Hooker pour moi, quoi. Ça a été un très grand moment.
Votre livre s'appelle Blues Power, il est sous-titré Une histoire parallèle du blues.
C'est aussi parce qu'il y a des gens dont je ne parle pas du tout, par exemple B.B. King, qui est un des géants du blues, j'en parle pas. Parce que sa musique m'a moins touché que celle d'autres musiciens. Disons que je parle moins du blues un peu commercial, un peu pop. Et puis, c'est mon histoire à moi, en fait. C'est un peu ce bouquin, c'est la somme de tout ce que j'ai écouté depuis une trentaine d'années, de tout ce que j'ai aimé. Je ne me suis pas forcé à écrire sur des choses. Voilà, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un dictionnaire. C'est un bouquin personnel sur la musique que j'ai adorée depuis 30 ans. Donc, elle est parallèle dans ce sens-là, cette histoire. Et puis après, dans la construction aussi, voilà, je vais aller vers le rock. Ce n'est pas un livre qui se lit du début à la fin, d'une traite. Il y a des chapitres, il y a plein de choses, il y a une discographie.
Il n'y a pas que des Américains hein, dans votre Blues Power. J'ai noté quelques Français, notamment Kepa, donc nos amis de Muddy Gurdy. Puis Nicolas Repac aussi.
Ouais,
ce sont des... Je ne m'attendais pas à les voir arriver dans un bouquin de blues. Je pensais qu'il n'y aurait que des Américains du Delta du Mississippi.
Ben non, en fait. Mais voilà, moi, je ne suis pas le mieux placé pour écrire un livre sur le blues du Mississippi. Il y a des Américains qui ont fait ça très bien. Moi, j'ai fait ça avec ce que je savais. Là où je sentais le blues en fait, et je trouve intéressant d'aller vers des musiciens qui sont pas étiquetés musiciens de blues, mais qui utilisent du blues dans leur musique, qui sont vraiment sensibles à cette musique. Et l'exemple d'Ike Hanegarn, pour moi, c'est un bluesman, même s'il chante en français et que sa musique est pas toujours formellement du blues. Dans sa façon de vivre, dans sa voix, dans sa sensibilité, pour moi, c'est un bluesman francophone. Et Nicolas Repac, pareil, il a fait un album qui s'appelait Black Box, voilà, où il samplait des tas de trucs de blues très anciens. Et il a fait un blues d'aujourd'hui à partir de ces samples de blues très anciens. Donc voilà, c'est pas un bluesman, mais c'est un musicien qui s'intéresse au blues et qui en donne sa version.
Et alors, de manière évidente, vous évoquez aussi quelques musiciens du continent africain, parce que tout est parti de là et s'est transformé après le voyage au-dessus de l'Atlantique. Vous parlez d'Ali Farka Touré, de Tinari Wen, de Tammy Cress, de Bissi Youssi, alors le Mali, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Mmh. Bissi Youssi, vous les voyez...
C'est pareil, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux.
C'est vraiment très open.
Oui, mais je pense qu'ils aiment le blues. Et le truc qui, dans le blues, prend aux tripes et donne l'impression de s'élever, d'aller au fond de soi et de s'élever en même temps, ils l'ont aussi, ça, Bissi Youssi. Même si c'est sous une forme, voilà, avec leur musique à eux. Mais il y a aussi un côté très musique d'église américaine chez Bissi Youssi, quoi. C'est un truc de prêcheur qu'on va retrouver aussi dans une histoire du blues, dans une partie du blues. Mais après, je reconnais que bon, c'est pas du blues.
Ah non, mais c'est pas grave. ça donne plutôt des petites branches sur l'arbre.
Les puristes,
c'est pas un bouquin pour les puristes.
Toujours. Non.
Tout va bien. Je vous propose d'écouter un autre titre que vous avez choisi, Stéphane Deschamps, c'est Sunhouse avec Shetland Pony Blues.
Hammond Hall, and he don't do nothing.
C'était Son House sur RFI dans les musiques du monde avec le titre Shetland Pony Blues. C'est un vieux morceau, ça, dites-moi, Stéphane Deschamps.
Oui. 1941, ça s'entendait, hein, ça craquait un peu.
On n'était pas nés.
Non.
Racontez-nous un peu l'histoire de Son House et de cet enregistrement.
Ben oui, ce morceau, il a une histoire très particulière. En fait, Son House, il avait enregistré, c'est un des géants du country blues, du blues d'avant-guerre. Il avait enregistré jusqu'en 1930 et puis il avait un peu disparu parce qu'il y a eu la crise, voilà, la Grande Dépression aux États-Unis. Donc les musiciens ont arrêté de faire des disques, il n'y avait plus vraiment de production. Et puis en 1941, il y a un monsieur qui le retrouve. Ce monsieur, il s'appelle Alan Lomax et c'est une sorte d'ethnomusicologue, même s'il n'en a pas les diplômes. Mais voilà, un monsieur qui parcourt le sud des États-Unis notamment pour enregistrer des musiciens. Et puis, il va lui faire enregistrer quelques morceaux à Son House. Et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'on entend un train passer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu.
Non, voilà. Je l'ai pas entendu.
À un moment, on entend ce train qui passe parce que le morceau a été enregistré dans un magasin tout près d'une voie de chemin de fer. Et c'est ce qu'on appelle un enregistrement de terrain. C'est la spécialité d'Alan Lomax. Et en fait, moi, je trouve ça sublime, ce morceau. À chaque fois, il me met la chair de poule. Parce qu'il y a cette mythologie, il y a à la fois la mythologie du vieux blues, de Son House, et puis du train, quoi. Dans le sud des États-Unis, la mythologie du train est très importante, notamment pour les musiciens qui voyagent beaucoup dans les trains de marchandises. Et ce morceau, je trouve qu'il a un truc unique. C'est comme un film, quand on écoute ce morceau, il y a un film qui commence, quoi. C'est un morceau à plusieurs dimensions, c'est pas juste de la musique.
J'ai l'impression que tous les musiciens de blues ont des vies avec des hauts et beaucoup de bas, beaucoup de trains, beaucoup d'alcool. Ouais, des fins de vie assez difficiles. Son House, bon, vous n'avez pas pu le rencontrer parce que lui, c'était quand même il y a très longtemps. J'ai lu dans votre livre qu'il avait accompagné Al Wilson de Kenneth Heath, On the Road Again, qui faisait de l'harmonica et de la guitare derrière lui. Est-ce que c'est une fatalité quand on est musicien de blues de vivre des choses difficiles comme les jazzmen qui aimaient la blanche Je parlais de la drogue.
Un petit peu, parce que déjà, ils viennent d'une époque où il y avait encore la ségrégation. Donc forcément, les musiciens noirs n'avaient pas les mêmes chances au départ que les musiciens blancs, par exemple. Souvent, ils sont illettrés, ils viennent du sud. Voilà, ils ont des boulets sociaux, on va dire, qui les empêchent peut-être de vivre pleinement un succès que peuvent vivre des musiciens blancs ou des musiciens du nord des États-Unis. Et puis, ouais, il y a des problèmes avec l'alcool, il y a des problèmes de santé. C'est une autre époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a des musiciens de blues qui sont des stars et qui se portent bien et qui n'ont pas de problème. Mais ça reste quand même une musique prolétaire, on va dire, quoi, avec tous les problèmes qui peuvent aller avec, un problème entre guillemets, mais voilà, c'est pas une musique de bourgeois, le blues, au départ.
Il y a de très belles photos dans ce livre, et j'avais oublié à quel point Skip James était beau.
Oui, c'est vrai.
Et alors, l'anecdote sur Skip James, c'est qu'il était tellement triste qu'on le payait pour qu'il arrête de chanter.
Ouais. Oui, c'est très beau. On dirait une punchline de marketing.
C'est ça.
Mais voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça fait partie de sa légende. Et oui. C'est tellement joli comme histoire que.
Mais c'est vrai que c'est une musique qui est triste. Oui.
Mais... Ouais.
I wish I knew just how to sing. Make a record, and it'll be the best of everything. Singing, boy, you would think it was the very, very best. Yes, that's why I wish I knew just how to sing. I'd make records, send them all over the country. I'd make this whole darn country ring. I feel so bad sometimes. Sing and me not knowing how to sing, that's why I can't make a thing. That's why you can bet your life I'd make some money and a lot of good things. Okay.
On n'a pas fait meilleur siffleur depuis. Je pense que l'homme est plusieurs dans sa tête. Donc c'était Bongo Joe. George Coleman avec le titre I Wish I Could Sing, je regrette de ne pas savoir chanter. Là, on est sur quelque chose de basique, c'est-à-dire percussion, voix.
Bongo Joe, un petit peu comme Révérend Utah Smith, c'est le côté parallèle, c'est-à-dire il n'est pas dans l'histoire officielle, il n'est pas très connu, il n'a pas fait beaucoup d'enregistrements, mais c'est un original. Il n'y en a eu qu'un, il n'y a eu qu'un seul Bongo Joe et personne n'a fait ce genre de musique après lui ni avant lui. Et moi, j'aime bien ces personnages, en fait, qui sont des créateurs, des novateurs. J'en ai mis plein dans mon livre, en fait. C'est un peu ça aussi qui m'intéressait, en plus de raconter une histoire un peu plus classique. C'est de donner un peu de lumière sur des gens qui ne sont pas connus et qui méritent de l'être.
Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en parallèle, et c'est peut-être aussi une des clés pour lire ce Blues Power, des musiciens d'aujourd'hui et ce qu'ils pensent de ces musiciens qui ont illustré le début du XXe siècle. Je pense à Fink, notamment cet artiste anglais qui a commencé dans l'électro, ouais. Enfin, et qui a viré complètement sa cutie, qui nous a sorti un album de blues somptueux,
oui, oui.
Fait à Berlin. Il dit par exemple que Howlin' Wolf C'est de l'avant-garde.
Ouais, c'est vrai. Les enregistrements des années 50 d'Howlin' Wolf, si on les écoute avec une oreille neuve, on entend des arrangements qui sont étonnants, des sons qui sont étonnants. La production est complètement étonnante. Et sa voix aussi, la voix d'Howlin' Wolf aussi. C'est, encore une fois, c'est les créateurs, c'est les inventeurs. Howlin' Wolf, plein de gens ont essayé de refaire du Howlin' Wolf, mais c'est unique en fait.
Jack White, des White Stripes. Mais enfin, Jack White dit que la musique s'est trop éloignée du blues. Ça, ça fait partie des chapitres, des interviews que vous avez pu faire à l'époque. Que vous étiez aux Inrecuptibles. La musique s'est trop éloignée du blues, pas pour les Rolling Stones, puisque c'est leur matière première.
Oui, bien sûr. Bah, après, Jack White, il a toujours un petit côté un peu réactionnaire, comme ça. Il y a d'autres musiques qui peuvent exister et être très bonnes sans le blues. Mais c'est vrai que le blues, il revient tout le temps, en fait. Tous les 10 ou 20 ans ou 15 ans, il y a une sorte de revival. Voilà, dans les années, tout début des années 2000, c'était Moby qui a cartonné avec son natural blues et tout ça. Après, il y a eu justement les White Stripes, les Black Keys et tout ça.
Beck.
Et Beck aussi, ouais, à ses débuts. Donc, c'est toujours une matière première qui ne vieillira jamais, le blues, dans la musique.
Qui aujourd'hui reprend le flambeau et se retrouve pas au même niveau, parce que les artistes sont censés être uniques. Il n'y aura pas de deuxième John Lee Hooker, il n'y aura pas de deuxième Al Bernstein, il n'y aura pas d'autres B.B. King. Mais je pensais notamment à cet artiste fantastique Negrito qui a, je crois, gagné 2 Grammys il y a 3 ans pour le meilleur album de blues contemporain. C'est quoi le blues contemporain ? C'est parce qu'il est d'aujourd'hui, c'est tout ?
Oui, c'est ça. Il peut y avoir du blues contemporain parce qu'il y a des sons électro dedans. Mais Fantastic Negrito, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que c'est un gars qui pourrait... Ce qu'on dit en fait, c'est que si Robert Johnson, un des premiers bluesmen, était vivant aujourd'hui, en fait, il ferait du rap, quoi. Il ferait de la trap, et c'est sans doute vrai. C'est-à-dire que, enfin, le vieux blues, à l'époque du vieux blues, c'était la musique des jeunes, en fait. Aujourd'hui, on considère ça, voilà, comme une antiquité, mais non. À l'époque, c'était la musique écoutée les jeunes, et c'était la nouvelle musique. Donc la nouvelle musique aujourd'hui qu'écoutent les jeunes, c'est le rap, en tout cas voilà, pour les Afro-Américains. Il y a des liens entre tout ça, et Fantastic Negrito, c'est un très bon exemple. Parce qu'il a cette espèce de douleur, de déchirure qui vient du vieux blues. Et en même temps, il a de la guitare électrique, il a des sons hip-hop, il est contemporain, il est moderne. Il y en a plein, hein. Mais après, aujourd'hui, c'est évident que le blues, c'est pas la musique la plus à la mode, quoi.
Quel est l'artiste qui vous a le plus marqué ? Parce qu'avec votre travail, vous êtes rendu à de nombreux concerts, parce que ça fait partie du job. Est-ce qu'il y en a un qui vous a scotché pour le restant de vos jours ?
Il y en a plein, en fait, mais moi, je pense à Tim O'Dellford, hein, qui est un des bluesmen un peu de la même veine que R.L. Burnside.
Vous l'avez vu où et quand ?
Je l'ai vu au Gibus en 1998 ou 9, je crois. Et c'était un truc, une espèce de chaos musical. Ils étaient deux. Lui, il joue de la guitare très mal, mais avec un naturel, une force de volcan. Il avait un batteur qui est un petit peu idiot, voilà, mais vraiment, quoi, gentiment attardé. Et puis c'était fantastique, et Tim O'Dellford, c'est une vie incroyable et une énergie incroyable. C'était déjà un vieux monsieur qui s'était mis à la guitare à 57 ans parce que quand sa cinquième femme l'a quitté, elle lui a laissé sa guitare en fait en guise de cadeau d'adieu. Il est censé avoir 26 enfants, Tim O'Dellford, il a fait 2 ans de bagne, enfin voilà. Et à l'âge où d'autres prennent leur retraite, lui, il se met à jouer du blues et à faire une carrière internationale. Et voilà. Moi, j'aime bien quand il y a ces histoires de vie aussi.
Et quelle est la place des femmes dans le blues ?
Elle est importante. Hein. Elle est importante. Il y a toujours eu des musiciennes de blues, des chanteuses de blues.
Il y a les Big Mama Thornton, etc. Ouais. Bessie Smith, mais bon.
Mais même aujourd'hui, hein, il y a plein de femmes qui font du blues. Il y a plein de chanteuses. Hein. C'est évidemment un truc de chant, le blues, hein, plus que d'instrument. Enfin, la voix est hyper importante. Donc, franchement, il y en a plein. Hein. C'est pas une musique macho.
Alors, j'avais choisi pour vous, pour terminer cette émission, Sarah McCoy. Alors, Sarah McCoy, vous n'en parlez pas dans votre livre. Est-ce que vous avez d'autres personnes que vous auriez aimé mentionner sur lesquels vous auriez aimé vous attarder, puis bon.
Si je devais refaire la partie discographie, là où je présente plein d'albums, c'est oui. Évident, en fait, pour la faire, je me suis mis devant chez moi, devant mon mur de disques, et j'en ai sorti, mais c'est évident que j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais développé la musique d'église, par exemple.
La musique d'église.
C'est pas le blues, mais c'est, n'empêche que c'est une branche importante pour l'origine du blues ou même en parallèle du blues. Et ouais, je pense que j'aurais fait un chapitre sur le gospel, sur tout ça.
Vous avez écrit sur Sarah McCoy dans Les Inrocks ?
Oui, j'ai écrit sur elle. Je l'avais fait venir en concert aussi à Paris.
Les nuits de l'alligator.
Ouais. Et voilà, c'est une musicienne qui n'est pas dans mon livre, mais si j'avais eu une dizaine de pages en plus, je pense que je l'aurais mise.
Donc elle vient de sortir un album qui s'appelle Blood Siren, signature chez
Blue Note.
Produit par Chili Gonzalez, notre Eric Satie à nous. Enfin, pas à nous, il est canadien, mais peu importe. Je vous laisse le dernier mot, en fait, Stéphane.
Moi, j'espère juste que ce livre va donner envie à des gens d'écouter du blues. Voilà, il y a des playlists dans le livre, donc on peut le lire en étant en même temps sur Internet et en écoutant plein de choses. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir, comme le jazz, comme plein d'autres musiques. On connaît quelques parties émergées de ce show iceberg, mais il y a énormément de choses à découvrir. Il y a un siècle d'enregistrement de blues, donc il y a forcément plein de choses à découvrir et à adorer.
Merci Stéphane. Je rappelle que votre livre s'intitule Blues Power, sous-titré Une histoire parallèle du blues, avec une préface de Mathias Malzieu. Je ne savais pas que Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos, avait un faible pour le blues. Ou alors il a un faible pour vous.
Les deux.
Voilà. Bon, Sarah McCoy sur RFI avec le titre Hot Shot, cet extrait d'une session live qu'on a fait avec elle il y a quelques jours. Merci Stéphane.
Merci Laurence.
I've seen you before now. Might have been under a different face, but I can't quite tell for sure. You came in hoping you could open the door, but your head started spinning and you hit the floor. One step closer, baby, and I'll take my shot now. Them stakes are done, betting high. There's something in my blood and he's been burned. Red. I'll dance with the devil till he puts me to bed, and the risk gets high, so I'm betting low. Two quarters and a dime are gonna save my soul, babe. But everything that you think you deserve, you're gonna lose it, baby. Nah, 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 nah. Because you don't know. Know what I'm worth. Whoa, no, yeah, you don't know. Oh, you don't know now. You're gonna lose it, baby, na na na. Because you don't know. You don't know what I'm worth, baby. Come here now. You know I'm a lucky man, yeah.
I got myself a killer poker face. Now all he's got the winning. You came in hoping you could open the door, but your head started spinning and you hit the floor. One step closer, baby, and I'll take my shot now. Them stakes are high. Gonna save my soul, babe. Everything that you think you deserve, you're gonna lose it, babe. No, 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 no. Because you don't know it. You don't know what I'm worth. Oh, no, no. You're gonna lose it, yeah. Well, you don't know. You're gonna lose it, yeah, well, you don't know. You're gonna lose it, babe, na 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 na. Because you don't know. Oh, oh. You don't know what I'm worth. You don't know.
C'était un extrait de la session live que nous avons consacrée à Sarah McCoy, une jeune artiste néo-orléanaise qui a signé son premier album Blood Siren sur le label Blue Note, grand label américain de jazz. Alors pendant que Stéphane écrivait tranquillement son livre sur le blues, Guts, le fabricant du sang, oui Guts, c'est l'histoire d'un mec, d'un beatmaker, d'un digger, d'un collectionneur qui faisait de la prod pour les autres, qui bricolait sur un ordinateur dans son studio et qui un jour, ou plutôt une nuit comme la chanson, a décidé de travailler pour sa pomme. Son nouvel album s'appelle Philanthropique, il est très entouré le Guts, il y a Cyril Atef à la batterie, Joey Omicile au saxo, sur ce titre précisément. On reste sur sa planche à l'aise et on accoste du côté des Antilles ou de l'Afrique. C'est comme vous voulez. Atlantique toujours, mais côté Cuba, avec une relecture du répertoire de Celia Cruz par Angélique Kidjo. Celia Cruz a fait carrière aux États-Unis après avoir quitté la Havane au moment de la révolution cubaine. Évidemment, elle chantera avec tous les grands de la diaspora, Tito Puente, Johnny Pacheco et bien sûr la Fania All Stars. Après les Talking Heads, eh bien Angélique Kidjo se plonge enfin dans l'arène de la salsa. La vie est un carnaval, un titre en forme d'aveu.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay tesoro, siempre hay alguien para. de saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia.
Encore et toujours, mais là dans l'âme et l'ADN des Maravillas de Mali et du maestro Bankana Maiga. Les Maravillas n'ont enregistré qu'un album, c'était en 67 à Cuba, chez Grem, la maison de disques officielle. Il ressort en 2019, augmenté de quelques orchestrations, arrangements, mais vous savez, le fond reste le même. Donc rendez-vous ce soir chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Quand je vous disais en début d'émission qu'il fallait retirer les chaussures, et alors les voisins bien, hein? Pas d'accord.
Ha! Chef Fatimata.
Rendez-vous ce soir, chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, chef Fatimata.
Rendez-vous ce soir, chef Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir. Chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami.
Aha! Chez Fatimata.
Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata.
Rendez-vous ce soir. Chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami.
Maravillas des Mali, Africa Mia, Blues Power, des noms, des gens qui vous souhaitent un avenir radieux sur Terre et dans l'atmosphère. Toutes les coordonnées des artistes qui ont été diffusées dans cette émission sont sur la page d'accueil de Musique du Monde, sur le site musique.rfi.fr. Allez, Jérémy Besset, faut pas rester, on s'en va. Et à demain pour la session live. Merci.